l'invité de la rédaction.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditrices et auditeurs de Radio Judaïka 102.9. Ravi de vous retrouver pour cet invité de la rédaction. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabien Azoulay, directeur général adjoint du FSJU, Fonds Social Juif Unifié de France, en charge de la solidarité, hashtag le social. Bonjour Fabien Azoulay.
Bonjour Dan, bonjour à tous.
Très heureux de vous retrouver ici à Strasbourg pour votre visite, j'allais presque dire régulière maintenant, parce que ce n'est pas la première fois que vous venez à Strasbourg. Nous aurons le plaisir de partager avec vous. Vous n'êtes pas venu seul, parce que votre hôte est avec nous, Laurent Gradvol, le directeur régional région Grand Est du FSJU. Bonjour Laurent.
Bonjour Dan.
Très heureux de vous retrouver également à ce micro. Tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans le débat, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le social. Une actualité très importante. Est-ce que vous pouvez, Fabien Azoulay, nous expliquer finalement quelle est cette dimension sociale dont vous vous occupez au sein du FSJU, autour bien sûr de la France, mais évidemment également en région?
Alors effectivement, le Fonds Social Juif Unifié est une association qui accompagne tout le tissu associatif au niveau national, et donc moi en particulier sur la question de solidarité. Et on accompagne ces associations à la fois à travers un apport en ingénierie, en structuration, en mise en réseau, à la fois en subvention, c'est essentiel pour accompagner les associations dans la réalisation de leur mission, et nous portons également des dispositifs sociaux que nous proposons aux associations que nous accompagnons pour les aider dans l'accompagnement des personnes en difficulté. Alors ces personnes en difficulté, évidemment on pense tout de suite à des questions de précarité, précarité alimentaire, énergétique, problème de logement, mais ça va bien au-delà. La solidarité, c'est aussi tout ce qui concerne les questions de handicap. Alors handicap, c'est vrai qu'on pense également souvent handicap physique, handicap mental, handicap sensoriel, handicap psychique.
Ce qu'on appelle aussi des handicaps invisibles.
Handicap invisible, exactement. Et donc, nous accompagnons des associations qui gèrent par exemple des foyers, comme le Buisson Ardent.
Que nous saluons et que nous connaissons
voilà,
bien ici à Strasbourg.
Voilà, Dina Bidbol, la directrice que nous saluons. Qui gère des services d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les aidants, puisque les aidants familiaux ont aussi besoin d'être accompagnés dans l'aide qu'ils apportent quotidiennement à leurs proches. C'est aussi tout ce qui est la perte d'autonomie des personnes âgées, le vieillissement de la population, le lien social. C'est absolument essentiel. On vit une époque où la question du lien social questionne beaucoup la forme du lien social réel, virtuel.
Comment la maintenir également dans ce quotidien ?
Comment la maintenir dans les conditions que l'on connaît aujourd'hui ? Comment proposer des nouvelles formes de sociabilité à des personnes qui peuvent être en perte d'autonomie, dont le lien familial parfois est distendu ? Voilà, ça va être aussi toutes les questions, bien sûr, de protection de l'enfance, des questions de...
Et malheureusement, nous n'en sommes pas exempts dans notre communauté, dans nos communautés.
Hélas. La protection de l'enfance, évidemment, c'est un vaste sujet. C'est un sujet qui touche au milieu familial, à la question de la sécurisation du milieu familial. Hein, tout ce qui concerne, quand on parle, par exemple, c'est un autre sujet de violence conjugale, en réalité, ce sont souvent des violences intrafamiliales, parce que les enfants sont malheureusement, sinon au cœur
de ces
problématiques, au moins témoins et impactés.
Psychologiquement ou physiquement.
Exactement, j'imagine. Exactement.
Est-ce que on voit que l'éventail est extrêmement large? Vous êtes directement en relation avec les autorités locales, départementales, hein, parce que c'est souvent référé au département. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques chiffres pour nous donner un peu une idée, tant en valeur qu'en volume, si je puis l'exprimer ainsi, sur le national et également un focus sur la région Grand Est?
Alors, sur la solidarité
partageable.
En général
ou... Solidarité en général, bah, les fonds que vous... Parce que vous parlez de subventions, d'accompagnement, de nombre d'aidants, de récipiendaires également, qui sont dédiés à ces aides. Pour nous donner un peu je n'ai pas envie de parler en termes de marché, mais voilà, le volume.
Alors, au niveau national, j'ai pas de chiffres vraiment très précis sur l'ensemble de cette catégorie, mais ce qu'on peut voir, c'est que au niveau de, par exemple, de l'emploi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais l'emploi de personnes au service de la solidarité, c'est-à-dire au service, par exemple, de nos aînés, au service des personnes en situation de handicap, au service de toutes ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, c'est 10% de l'emploi en France. Donc c'est quand même un chiffre très important.
10% de l'emploi en France, c'est énorme.
Ouais. Oui, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que par exemple, quand on parle ne serait-ce que du maintien à domicile, ce sont tous les jours des centaines de milliers de personnes qui travaillent au domicile de personnes en perte d'autonomie, dans un accompagnement humain, pour ne serait-ce que aider à préparer des repas, aider au déplacement, aider à faire des courses, aider au nettoyage de la maison, etc. Et donc ça c'est juste un chiffre comme ça, mais c'est pour vous donner l'ampleur en fait de ce domaine d'activité qui concerne l'humain. Et c'est vrai que souvent, quand on veut parler de la richesse économique de la France, on va présenter des grandes entreprises, on va présenter de la haute technologie, on va présenter... Mais en réalité, il y a des services qui concernent l'humain qui sont cruciaux. Et le Fonds social juif unifié, dans son action de solidarité, accompagne beaucoup d'associations sur tout le territoire national pour aider les personnes dans des difficultés tout à fait concrètes. Alors effectivement, ça peut être aider à un repas, aider à un repas de Shabbat par exemple, mais ça peut être aussi aider une personne en situation de handicap à avoir une aide à domicile ou à avoir peut-être un matériel adapté, etc. Ça peut être aussi tout ce qui va concerner, on l'a vu ce matin, j'ai eu le plaisir de rencontrer M. Guigui et M. Abouaf de l'Hort Strasbourg. L'Hort a le seul restaurant universitaire Crous cachère de France.
Labellisé.
Et ça, c'est une chance incroyable. Mais ce restaurant,
et c'est à Strasbourg. Donc c'est à Strasbourg. Un petit cocorico quand même.
Et ce restaurant-là, vous vous doutez bien que le Crous, quand il finance ce restaurant, il ne le finance pas sur des critères tarifaires cachères.
Bien sûr. Bien
donc
sûr.
Il y a forcément un déficit, un écart à compenser. Et le Fonds social accompagne ce restaurant universitaire. Donc, si vous voulez, ça, c'est des actions concrètes. Alors, moi, les chiffres, si vous voulez des chiffres, je peux vous donner, par exemple, le fait que le budget de l'action sociale du Fonds social, c'est 6 millions d'euros par an, qui est utilisé pour à la fois subventionner des associations sur tout le territoire national, qui est utilisé pour des dispositifs sociaux, que ce soit des bourses vacances, que c'est pour aider les enfants à partir en vacances dans nos mouvements de jeunesse. Ça peut être effectivement tout ce qui va concerner l'aide au logement, l'aide alimentaire,
alors
etc.
Justement, l'aide au logement, parce que vous avez parlé de beaucoup de sujets déjà, de tous les sujets qui sont touchés, que ce soit la vieillesse, les jeunes, les hébergements, le repas, le maintien à domicile, mais il y a également les sans-abri, l'hébergement d'urgence, j'imagine, je crois que Laurent Gradvol, vous êtes en charge aussi. Il y a sur ce dossier à Strasbourg, Laurent, Fabien.
Il y a ce sujet sur Strasbourg, mais je laisserai la parole à Fabien, parce qu'il a engagé une réflexion, plus qu'une réflexion, je veux dire des actions en termes d'hébergement d'urgence, qui peut concerner des gens victimes de violences conjugales ou des personnes ayant des problèmes d'accident de la vie qu'il faut vite reloger.
La difficulté dans le logement, c'est l'accès au logement, à un logement pérenne. Alors, je prends une région que je connais un peu mieux pour y travailler, c'est Paris et région parisienne. Quand quelqu'un fait une demande de logement social à Paris, le délai moyen d'attente, c'est 10 ans. Donc 10 ans, vous vous doutez bien que 10 ans, en 10 ans, la composition familiale peut évoluer, la situation de la vie peut évoluer, puis entre-temps, qu'est-ce qu'on fait ? Mais ça, on va dire que c'est pour l'ensemble de la population qui prétend à un logement social. Mais entre-temps, il y a des gens qui peuvent être à la rue, il y a des gens qui sont hébergés en hôtel chez des amis, qui sont ce qu'on appelle sans domicile fixe, mais sans domicile fixe, on imagine que quelqu'un à la rue, mais ce n'est pas forcément le cas. Quand on tourne d'amis en amis parce qu'on n'a pas où dormir,
on est aussi,
quand on a une séparation familiale douloureuse, quand il y a des violences conjugales qui obligent à quitter le domicile, où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on attend 10 ans ? On ne peut pas. Donc, au Fonds social juif unifié, nous travaillons actuellement sur la mise en place de logements temporaires, c'est-à-dire en fait des logements qu'on peut occuper rapidement sur un bail temporaire de 6 mois, renouvelable une fois, mais ce temps-là permet
de prendre en compte et
d'accompagner la personne vers des solutions plus durables, plus pérennes. Ça, c'est un premier point. Aujourd'hui, le Fonds social juif unifié sur Paris, région parisienne, gère 7 logements temporaires. On pourrait se dire, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà une base. L'objectif en 2022, c'est d'en ouvrir 10 de plus qui vont être réservés, on pourrait dire, ou en tout cas orientés vers la mise à l'abri de personnes, de femmes victimes de violences conjugales. Pour parler de Strasbourg, nous étions hier avec Laurent Gradvol à la rencontre de Christian Krieger, qui est le président du Home Protestant, de Strasbourg, et qui est devenu ou qui va devenir président de la Fédération nationale des protestants de France, et qui va développer un CHRS, c'est-à-dire un foyer d'hébergement d'urgence. Ce foyer d'hébergement d'urgence, on travaille étroitement avec Christian Krieger pour essayer de développer la solution de logement temporaire pour la communauté juive en partenariat avec ce développement-là et nos amis protestants. Donc, vous voyez, ce travail-là, qui est un travail concret dans la solution à des problématiques difficiles de la vie, eh bien, le Fonds social juif unifié accompagne la mise en œuvre de ces solutions pour profiter à la communauté juive.
Je crois que c'est important de préciser tout ça, ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on, malheureusement, nous ne nous imaginons pas, quand nous sommes un peu dans nos conforts mutuels de chacun, l'importance et de l'action du Fonds social et de toutes ces autres personnes qui finalement sont des co-religionnaires, mais ont aussi des problématiques que l'on retrouve dans l'ensemble des strates de la société, quelle que soit la religion. Et c'est un peu un éclairage extrêmement important, une sensibilisation que vous nous faites et auquel on ne peut que pousser et à l'action et au don, bien évidemment, parce qu'on n'oublie pas non plus les actions quotidiennes et régulières pour cela. Fabien Azoulay, vous avez commencé votre carrière en tant que directeur de maison de retraite. Vous êtes arrivé au FSJU très récemment, le lendemain de Pessah, de cette drôle d'année, ces drôles d'années que nous venons de passer. Vous avez donc une expérience significative dans le monde du social, dans le monde de la maison de retraite. Je ne peux pas ne pas vous poser cette question justement de concernant le scandale dit d'Orpea. Est-ce qu'il va y avoir des répercussions dans les centres, dans les maisons, dans les EHPAD juifs que nous connaissons? Est-ce que nos co-religionnaires ont été impactés par cela, et comment est-ce que ça se vit, et quelles sont les solutions et le regard que vous y portez?
Alors, Orpea, c'est le leader, ou sinon un des leaders des EHPAD en France et même, je crois, en Europe, voire dans le monde. La problématique essentielle, c'est une problématique de société. Les personnes âgées, les personnes fragiles, qu'est-ce qu'on leur propose? On leur propose aujourd'hui des hébergements, ce qu'on appelle un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, un EHPAD. Ce sont des services, ce sont des personnes qui sont au service de ces personnes, des infirmières, des aides-soignantes, des services logistiques, administratifs, etc. Derrière cela, si jamais il y a un modèle qui est associatif, comme nous le portons au sein de la communauté juive, à travers la Fondation Rothschild, à travers la Fondation Kazib Kojassor, à travers le Kazim, à travers d'autres structures, à travers Rambam à Toulouse, c'est un modèle qui repose foncièrement sur l'humain. Mais si jamais on y substitue un modèle privé, un modèle dont la perspective est le profit, le bénéfice, afin de servir des dividendes à des actionnaires ou de répondre à des impératifs boursiers, alors l'objectif n'est plus le même. Moi, quand j'étais directeur d'EHPAD, et je salue tous mes collègues directeurs d'EHPAD qui, ces deux dernières années, et pas que les directeurs, je veux dire tout le personnel, ont donné vraiment de leur personne. Et je connais personnellement des professionnels du secteur médico-social qui ont vécu des choses très difficiles à titre personnel, parce qu'ils se sont retrouvés hospitalisés, ils se sont retrouvés en réanimation, parce qu'ils étaient en première ligne, sans moyen de protection, parce qu'à l'époque, les masques, ça valait 60 euros la pièce, parce que le système était défaillant, quelque part. Eh bien, je me permets vraiment de rendre hommage, même si c'est un petit aparté, à toutes ces personnes-là. Eh bien, ces directeurs d'EHPAD, ces professionnels d'EHPAD, en fait, aujourd'hui, sont au service, vraiment, de la personne. Quelle est notre raison d'être en tant que professionnel du médico-social? C'est le confort, le soin de la personne qui nous est confiée. Ça peut être notre parent, ça peut être un proche, ça peut être un enfant en situation de handicap, un jeune en situation de handicap. Ça peut être... en fait, quand une personne vient résider en EHPAD, c'est toute sa famille, quelque part, qu'on accompagne.
C'est ça.
Parce que l'angoisse de séparation, l'angoisse de la maladie, l'angoisse de la mort, c'est pas juste la personne qui la partage. Et donc ça, c'est le modèle associatif. Mais si on y substitue un modèle privé, qui peut être performant, je ne dis pas, mais qui a un autre objectif, qui est un objectif financier. Alors à ce moment-là, on se heurte à un problème qui est un
capitalistique.
Simplement, on n'a plus le même objet.
De rentabilité.
On perd l'objet humain, même si évidemment, pour la forme, on va dire qu'on va le garder.
Évidemment, ça c'est le marketing.
Voilà.
Alors, il y a évidemment dans ces problématiques de maison de retraite, hein, j'en profite aussi pour saluer la Fondation Elisa, le président Emmanuel Gaisman, et puis la directrice de la maison de retraite, Fabienne Gaude, hein, qui a démarré à cette époque en plein dans cette tourmente. Donc je crois que cela résonnera pour et tous vos ex-collègues, vos collègues actuels, et bien sûr les familles, les accompagnants et le personnel que nous saluons et que nous, auxquels nous sommes bien évidemment très solidaires. Il y a d'autres sujets qui sont plus que d'actualité, c'est un petit peu les projectifs, ce qui est en train de se passer. On se rappelle le grand vol de la librairie solidaire que vous avez ouvert, qui, je crois, juste peut-être, profitons-en, Fabien Azoulay, aussi pour faire un bilan. Je crois que c'est ce qu'on pourrait appeler un véritable succès. C'est des centaines, voire des milliers de livres vendus, échangés pour nos collégionnaires et d'autres.
Absolument. Oui, cette librairie, je le rappelle, est ouverte vraiment à tout le monde. Et le petit bilan de 4 mois et demi d'ouverture, nous avons vendu 2295 ouvrages.
2295, incroyable. Voilà.
Alors c'est sûr que ce n'est pas un chiffre d'affaires extraordinaire, parce qu'on ne parle pas du chiffre d'affaires, je vais dans ce genre de librairie, dans ce genre de lieu, mais ça représente, c'est des prix, des ouvrages de 20 centimes, je le rappelle, jusqu'à 3-4 euros.
Et donc, de la BD, du livre, du roman, du livre de
Kodesh, Torah, aussi, des Marzorim, vraiment de tout, je veux dire aussi. Et il y a tout un public qui vient, c'est pas seulement les gens qui sont défavorisés et autres, c'est vraiment tout un public, juifs, non-juifs, des gens qui viennent acheter, qui nous les ramènent.
Et enfin, situation aussi fait que...
La situation fait que c'est intéressant, c'est un vrai lieu de passage aussi, et de rencontre aussi, et puis je remercie aussi ici les donateurs, c'est-à-dire les gens qui nous offrent leurs livres. Genre, tous les jours, nous avons des cartons entiers de livres qui arrivent à la librairie,
On n'est pas obligé de donner des chèques, enfin, bien si on vous invite aussi à le faire, hein, vous faites, en fait, chacun fait selon ses moyens.
Absolument.
Et une fois de plus, Laurent Gradevoil, Fabien Azoulay, rappelons-le, Strasbourg a été pilote et ce n'est pas fini parce qu'il y a deux autres annonces qui me semblent importantes. La première, c'est la boutique sociale. On salue le président de l'ASJ, également Thomas Bloch, entre autres choses, l'initiative.
Et l'équipe de l'ASJ aussi.
Et l'équipe de l'ASJ, bien évidemment. Toute l'équipe de l'ASJ, Sophie Hirsch.
Carole, Chaïm.
Tous. Je ne veux pas le faire d'impair. Quelques mots peut-être, Fabien, sur cette boutique sociale qui est en cours. Ou Laurent.
Non, je vais laisser la parole bien sûr à Fabien, mais quand on vient de citer l'ASJ, je me permets juste de redire que nous, le Fonds social, pour nous, l'ASJ, c'est notre bras armé du social et de la solidarité. Nous sommes effectivement le financeur principal de l'ASJ. Je veux dire, le montant ici, un petit peu l'enveloppe globale de la solidarité sur la région est à peu près de 240 000 euros, quand même. Et y a pratiquement 200 000 euros qui sont alloués à l'ASJ.
C'est donc c'est important de le rappeler.
Ces actions de solidarité, elles visent aussi à proposer des solutions qui sont optimisées, c'est-à-dire qui vont répondre à la fois à des impératifs budgétaires, puisque évidemment, quand on a des donateurs qui nous soutiennent, il est essentiel d'employer au mieux les fonds qui nous sont alloués, de les employer de la manière la plus efficiente possible, et aussi de répondre à des impératifs liés à la dignité des personnes que nous accompagnons. Et un des enjeux de cette dignité, c'est cette épicerie solidaire, c'est de dire finalement, plutôt que de vous donner un panier avec des aliments, vous venez, vous faites vos courses. Et faire ces courses, on pourrait croire que c'est anodin.
Au contraire.
C'est essentiel. Vous faites vos courses, vous avez le choix des produits, vous payez. Vous payez certains tarifs qui est moindre, c'est-à-dire que le prix des produits avoisinera les 10% du prix du marché. Mais ça veut dire que si jamais vous avez 50 euros à dépenser, vous pourrez faire vos courses pour un équivalent de 500 euros.
C'est énorme.
Donc, cette épicerie solidaire a vocation à être un lieu d'orientation des personnes en difficulté. C'est pas pour que tout le monde vienne faire ses courses à moindre prix. Il ne s'agit pas de concurrencer les commerces existants. Il s'agit bien au contraire d'aider des personnes en difficulté sur un moment cadré par l'assistante sociale, d'accord ? C'est-à-dire que c'est pour 3 mois, c'est pour 6 mois, afin que là, le budget dégagé, c'est-à-dire que par exemple, si je reprends cet exemple de 50 euros pour 500 euros, ça vous dégage 450 euros que vous ne dépensez pas en dépenses alimentaires et que vous pouvez consacrer, par exemple, à résorber une dette locative, à résorber une dette liée à un accident de la vie, je ne sais pas, un problème de santé, la voiture qui lâche, etc. Et donc, ça permet à des gens qui étaient vraiment, on va dire, en difficulté,
en difficulté.
De, de sortir la tête de l'eau.
En fait, c'est un cercle vertueux, et surtout, et vous le disiez tout à l'heure, c'est un accompagnement. Finalement, on accompagne, on réautonomise, on réapprend et on est soutenu. Et ce soutien, il est intelligemment effectué pour que l'humanité soit présente.
Tout à fait.
Eh bien, écoutez, tout ça est...
Rester sur le sujet de la politique sociale, effectivement, les partenaires, c'est bien le Fonds social, c'est l'AEJ, mais autre partenaire, je dis incontournable, ce sont les paniers du cœur. Avec à sa tête Marie-France Lévy, qui est un vrai partenaire...
Que nous saluons aussi.
Voilà, pour ce projet-là d'épicerie de boutique solidaire.
Très bien, voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents sur le marché, ils sont tous en interdépendance, ils sont gérés, soutenus par le FSJU, et il faut bien sûr les rappeler et les saluer. On a parlé de social, de solidarité, de librairie, de culture. Il y a un sujet qui est très important aussi et qui fait l'actualité plus que de raison, et qui est en lien et avec le judaïsme et surtout avec cet environnement ambiant, et pour ne pas faire de jeu de mots, bien sûr, c'est le climat, l'écologie, et nous avons Fabien, avec l'aide et surtout sous la houlette également de Laurent Gradvol ici présent, assisté à une expérience assez extraordinaire. Je vous invite vraiment, vous qui nous écoutez, auditrices, auditeurs de Radio Judaïka et les autres, à vous inscrire aux prochaines sessions, c'est la fresque du climat. Alors, c'était il y a quelques jours, on a eu l'occasion d'expérimenter cette fresque du climat. Laurent, Fabien, c'est la première fois que vous l'effectuez. En fait, c'est juste pour donner un peu le cadre, c'est une sensibilisation au dérèglement climatique en prenant les causes, les conséquences, et tout un liant très ludique et très participatif avec des cartes sous une forme de jeu, mais extrêmement bien pensé et bien réfléchi, et surtout bien animé par la célèbre Audrey Studer que nous saluons.
Oui, tout à fait. La fresque du climat que j'ai découvert hier grâce à Laurent Gradvol et son épouse, c'est sous forme de jeu. Donc ça, c'est très interactif, c'est très agréable.
Et pour l'ancien prof que vous étiez, c'est bien aussi.
Oui. Et on découvre beaucoup de choses, des coccolithophores notamment.
Ah ben, n'est-ce pas, les coccolithophores. Voilà. Bien voilà. Retenu. Bravo de l'avoir placé. Bravo.
Voilà, qui sont du phytoplancton, si on a bien raison.
C'était le challenge du jour.
Voilà, c'était le challenge du jour. Donc effectivement, le dérèglement climatique, c'est un sujet. La question, d'une manière générale, de la protection de l'environnement est présente, je veux dire, culturellement, historiquement, dans les textes juifs, qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas être insensible à ces questions-là. Maintenant, il est vrai que beaucoup d'entre nous, et moi le premier, se posent la question de se dire, mais moi, individuellement, qu'est-ce que je peux faire ?
Qu'est-ce que je peux faire ?
Et ça, ce jeu-là, qui est tout à fait interactif et très agréable, et en plus on a eu une équipe de choc pour le partager, nous donne des premières pistes de réflexion. Et ça veut dire que finalement, nous redonne les mains, la main pour dire on peut faire quelque chose à titre individuel. À titre collectif, c'est évident, mais aussi à titre individuel.
Et ça s'ancre parfaitement dans le, j'allais dire, ce ministère des solidarités de l'écologie, mais cette entité qui est que le FSJU, et ce, à chacune des étapes de notre vie, mais également dans notre vie culturelle et culturelle.
Prendre soin de l'autre, c'est penser à l'autre, et l'autre, c'est nous tous, c'est la collectivité dans son ensemble, et là où on vit, la terre où on vit, elle doit être un sujet de préoccupation majeur. Sans faire de politique ou quoi que ce soit d'autre, mais un sujet de préoccupation majeur, que ce soit à titre individuel, collectif, à titre aussi culturel, de voir effectivement dans nos traditions, dans l'histoire de nos traditions, que nous avons cette préoccupation au cœur de notre histoire. Les fêtes, les principales fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, ont un lien avec la nature. Nous sommes actuellement 5782, année de la Shemitah. La Shemitah, le repos de la terre. 6 ans, la terre, elle travaille. Une année, elle se repose. Ça n'existe dans aucune autre culture que la culture juive, je veux dire. Et ça, c'est millénaire. Donc, il n'y a pas de raison de tourner le dos à cette problématique. Bien au contraire, nous devons être une voix forte dans la cité, dans la société, pour porter aussi ces sujets-là.
Fabien Zoulet, je rappelle, vous êtes directeur général adjoint du FSJU en charge de la solidarité, hashtag le lien social. Laurent Gradvol, un grand merci de nous avoir consacré ce temps. Fabien Zoulet également, un grand merci d'être
merci
venu ici à Strasbourg au studio de Radio Judaïka.
Merci Dan.
Il ne reste plus qu'à vous saluer, vous dire à très très bientôt, et puis bonne Shemitah à tous. Je ne sais pas si ça se dit, mais allez, on va se reposer aussi un petit peu, c'est bientôt les vacances. Très belle journée, à bientôt.
l'invité de la rédaction.